Il est 1h du matin à Paris, 19h à Washington. Merci d'écouter Radio France Internationale. Avec un nouveau journal présenté par Théo Renaudon. Bonsoir Théo.
Bonsoir. À la une de l'actualité, il a attendu la fermeture de la bourse américaine pour faire ses annonces. Donald Trump lance concrètement sa guerre économique. Taxes supplémentaires pour tous les pays du monde, dont des pays africains. Le président américain parle du jour le plus important de l'histoire américaine. Dans ce journal, les chiffres précis et les premières réactions internationales. Les Turcs appelaient à une journée sans achat aujourd'hui pour protester contre la dérive autoritaire de leur pays. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux. Et en Haïti, manifestation contre les autorités dans la capitale Port-au-Prince, habitants désespérés par l'insécurité qui ronge leur pays et l'impuissance de l'État face aux gangs.
RFI.
Le monde économique mondial est hébété après l'assaut généralisé de Donald Trump qui a décidé de taxer tous les autres pays du monde de 10 à 99% supplémentaires aux taxes déjà en vigueur. Le président américain assure que l'âge d'or de l'Amérique commence après que son pays ait été pillé pendant des années par le monde entier. Concrètement, cela donne 20% de droits de douane supplémentaires pour l'Union européenne, 34% pour la Chine, 21% pour la Côte d'Ivoire, 30% pour l'Algérie, 11% pour le Cameroun et la RDC, 10% pour le Sénégal. Des chiffres annoncés en grande pompe devant un public avec un fond de drapeau américain géant. Donald Trump a tenu un discours d'une heure, tableau chiffré à la main. Au cœur de son discours, le fameux principe de réciprocité. Écoutez.
Dans quelques instants, je signerai un décret historique instituant des droits de douane réciproques sur les pays du monde entier. Réciproque signifie ce qu'ils nous font, nous leur faisons. C'est très simple. Ça ne pourrait pas être plus simple. C'est à mon avis l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine. C'est notre déclaration d'indépendance économique. Pendant des années, les citoyens américains qui travaillent dur ont été contraints de rester sur la touche alors que d'autres nations s'enrichissaient et devenaient puissantes, la plupart du temps à nos dépens. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prospérer. Et ce faisant, d'utiliser des milliards et des milliards de dollars pour réduire nos impôts et rembourser notre dette nationale. Et tout cela très rapidement. Grâce à l'action d'aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir rendre à l'Amérique sa grandeur. Plus grande que jamais.
Voilà, le dollar américain a instantanément perdu 1% de sa valeur. L'Australie, première à réagir, qualifiant ces nouvelles taxes d'injustifiées, suivie de l'Italie qui parle de mauvaises mesures tout en espérant un accord pour éviter une guerre commerciale. Le Royaume-Uni, lui taxé à 10%, reste calme et dit ne pas vouloir riposter tout de suite. Le ministre américain des Finances conseille à l'instant à tous les pays du monde de ne pas riposter à ses droits de douane. Stopper tous les achats, supermarchés, restaurants, boutiques, cafés, restaurants, carburant, course en ligne, appel au boycott. Le général lancé en Turquie par les étudiants est relayé par l'opposition après l'arrestation et l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul. Les opposants au président Erdogan veulent trouver d'autres moyens de lutter après les manifestations durement réprimées de la semaine dernière et ont donc appelé leurs partisans à une journée sans achat. Reportage à Istanbul de nos envoyés spéciaux Daniel Vallot et Bertrand Éclair.
Peu de clients à la mi-journée dans ce magasin de chaussures pour hommes situé dans le centre d'Istanbul. Le boycott, nous dit le vendeur, se fait nettement sentir.
Normalement, à cette heure-là, on aurait dû avoir au moins 80 ou 90 clients. Mais là, on a vu 20 personnes, même pas. Ça nous impacte énormément.
Cette journée de boycott vise les magasins, les restaurants et toutes les transactions en ligne. Un moyen de pression supplémentaire aux yeux de cet étudiant de l'université d'Istanbul.
C'est un mouvement initié par les étudiants, mais qui est étendu à toute la population. L'objectif est de montrer à quel point nous sommes forts lorsque nous sommes unis.
Mais pour les partisans du président Erdogan, le boycott est perçu comme une action déloyale à l'égard de la Turquie. En témoigne ce vendeur de confiserie, bras croisés devant sa boutique.
Vraiment, ce boycott est une perte d'argent. Et je ne suis pas d'accord. Ils pensent qu'ils nous font du tort avec ce boycott, mais ils se font du tort à eux aussi. Tout le monde en souffre, n'est-ce pas ?
Tout le monde en souffre, l'argument est déjà repris par les autorités qui accusent l'opposition par calcul politique de mettre en péril l'économie du pays. Bertrand Éclair, Daniel Valo, Istanbul RFI.
Ils ont dénoncé avec force l'insécurité et la montée en puissance des gangs. Plusieurs milliers de manifestants en Haïti, dans la capitale Port-au-Prince. Pendant les premières heures de la matinée, commerces et écoles fermées, les manifestants se sont dirigés vers les locaux du Conseil présidentiel de transition avant d'être dispersés par la police. Le CPT, créé il y a presque un an, n'a toujours pas réussi à ramener l'ordre dans l'État gangréné par la violence des gangs. Dans le même temps, dans une nouvelle ville importante, une nouvelle ville importante pourrait tomber aux mains des gangs ce lundi. Des centaines de détenus se sont évadés de la prison de Mirbalé, ville au centre d'Haïti, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, Port-au-Prince. La police a dû battre en retraite face aux gangs lourdement armés. Les précisions de Noah Perret.
Depuis lundi, la coalition de gangs Vivre Ensemble a pris d'assaut Mirbalé, a commencé par le commissariat, incendié en partie, puis la prison civile où plus de 500 détenus se sont évadés. Le lycée public de la ville a quant à lui été envahi hier. Un représentant local du gouvernement, cité par l'AFP, rapporte des morts, des blessés et des milliers d'habitants en fuite vers les localités voisines. Dans la foulée, les autorités ont annoncé qu'elles risquaient de perdre le contrôle de Mirbalé. La situation est confuse. La PNH, la police nationale haïtienne, affirme avoir repris le contrôle de la ville grâce à des renforts. Et selon le quotidien haïtien Le Nouvelliste, un nouveau commandant a pris les rênes du commissariat. Mais différentes sources sonnent l'alerte. Les forces de l'ordre manquent de coordination et certaines unités de la PNH se désengagent. Depuis février, les attaques de groupes armés contre la population se sont accélérées dans plusieurs départements du pays. À Port-au-Prince, le tribunal de première instance a dû être relocalisé hors de la capitale. Fritz Alphonse Jean, le président du Conseil présidentiel de transition, l'a déclaré lundi. Haïti est, je cite, en situation de guerre.
Tripoli met à la porte 10 ONG humanitaires occidentales, parmi elles Médecins sans frontières, Terre des Hommes ou encore le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les autorités libyennes accusent ces organisations d'installer des migrants d'origine africaine, je cite, visant à modifier la composition démographique du pays. Fin de citation. Allez, un peu de cinéma maintenant, du cinéma palestinien. Un film qui trace un portrait de la vie palestinienne sous l'occupation en plaçant sa caméra à hauteur d'enfant. Derrière la caméra, un réalisateur originaire de Gaza, Rachid Mach Sharawi, né en 1962 dans un camp de réfugiés. Songe, c'est le titre de son film, est sorti à Paris ce mercredi, Ouda Ibrahim.
Pour réaliser un film, Rachid Masharawi, palestinien originaire de Gaza, part toujours d'une idée simple qui porte en elle quelque chose de symbolique et de poétique. Il essaye d'une manière constante de développer la même histoire, toujours sous une autre perspective. Ses héros sont souvent des enfants, comme lui, ils sont issus d'un camp de réfugiés palestiniens. Dans Songe, son nouveau film, Sami est un enfant de 12 ans. Il vit en Cisjordanie. Innocent et inconscient, il refuse de reconnaître la réalité de l'occupation. Pour Rachid Masharawi, il est important de montrer ce film au public en France.
Ce film que j'ai tourné avant la guerre est important pour que le public occidental voit et connaisse plus de détails sur les Palestiniens, pour que ce public sache que nous avons une société, que nous avons du cinéma, que nous avons des histoires et que l'image de la Palestine n'est pas uniquement celle qui circule dans les bulletins d'information. Cette Palestine-là pratiquement ne nous représente pas. Ce film traite d'histoires liées à la réalité actuelle, à la mémoire et aux rêves d'enfants.
Le film tourné avec le moyen du bord est une sorte de voyage initiatique qui, à chaque rencontre, dévoile une facette de la vie, laissant transparaître l'absurdité et l'ingéniosité du quotidien palestinien.
Du football, maintenant, le FC Barcelone a battu l'Atlético de Madrid ce mercredi soir. Le club part en finale de la Coupe du Roi. Il affrontera son éternel rival, le Real Madrid. Ce sera le 26 avril à Séville. En France, ce sera Reims qui ira affronter le PSG en finale de Coupe de France. Le club a renversé Cannes ce mercredi soir. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité dans 50 minutes. En attendant, vous pouvez écouter tous nos podcasts originaux sur l'application Pure Radio de RFI. Merci de m'avoir écouté.
Thank you.